Radio Campus Bruxelles 92.1.
L'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, comme chaque mercredi soir 19h-19h30, et en rediffusion le jeudi dès 13h30, une petite demi-heure pour épingler la scène théâtrale et chorégraphique, évidemment, à Bruxelles. Beaucoup de créations. J'ai à mes côtés Nicolas Latechnique. Bonjour, bonsoir, Nico.
Salut.
Sophie, bonjour.
Bonjour.
Et d'autres chroniqueuses par téléphone. Alors, programme vaste, hein, beaucoup de créations. On ira à la Balsamine pour Indigène, Franck-Xavier Crutz, le retour de la metteuse en scène Nathalie Mauger. On ira du côté du Marny pour deux filles qui font un spectacle sur des reines d'Angleterre, It's So Nice. On ira faire un tour à l'atelier 210 avec une compagnie au nom assez tordu. La compagnie s'appelle, tenez-vous bien, On voit ta culotte, Madame Véro, et le spectacle qu'il propose, c'est L'enfant poussé tordu. Très très intriguant. On ira aussi dans d'autres intrigants, c'est les Mossoubonté, hein, qui font leur création, les buveuses de café. On ira faire un tour du côté de l'opéra La Monnaie, qui sort un opéra méconnu, et c'est Oedipe, une composition méconnue de Georges Enescu, un compositeur inconnu, donc ça a été un événement. Mais ici, je me retourne pour le Marny et j'ai Elisabeth en ligne. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour, bonsoir.
Tu es partie voir un drôle de truc, hein, It's So Nice.
It's So Nice, oui, alors c'est un spectacle qui est en fait la première création de deux comédiennes qui ont déjà un petit peu de bouteille puisque ça fait déjà 20 ans qu'elles sont sur nos planches. Mais c'est leur premier spectacle ensemble, c'est une nouvelle compagnie qui s'appelle Oh My God. Alors le ton est donné puisque évidemment le propos de leur première création, c'est d'explorer un petit peu les relations pour le moins problématiques entre Elisabeth et Marie. Bien sûr, reine d'Écosse, d'Angleterre, enfin tutti quanti. On se retrouve au XVIe siècle, en pleine Renaissance. Et évidemment, ce qu'on nous propose, c'est une conférence sur ce sujet-là. Alors c'est déjà un peu un prétexte aussi, la conférence prétexte l'est tout aussi.
On sait que tu aimes ça, les conférences.
On sait que j'aime, oui, évidemment. Mais c'est parce que ça me semble parfois un peu superflu. Bon, si on a envie de parler de ces deux reines-là, parce qu'effectivement c'est une histoire importante, palpitante, tout ce qu'on veut, qu'on le fasse. Mais voilà.
C'est un procédé, oui, efficace pour relier un propos et le dévier, justement.
Oui, sans doute, mais en même temps, ça me donne toujours un petit côté de déjà-vu aussi. On a toujours les conférenciers qui se trompent. Ben là, elles sont deux, donc fatalement, il y a un moment donné où il y en a l'une qui engueule l'autre. Enfin, des choses un petit peu comme ça. Il y a aussi des conférenciers qui reviennent, qui s'égarent et qui en arrivent à parler d'eux-mêmes plutôt que de leur sujet. Enfin, bon, des choses comme ça. C'est un spectacle qui a aussi la caractéristique de vouloir un petit peu abolir les frontières entre les différents genres. Donc on est bien sûr dans du théâtre, on est dans quelque chose d'un peu gestuel. Une des deux comédiennes a été formée chez la SAD. Mm-hmm. Et on a aussi la vidéo qui fait son entrée là. Mm-hmm. On a aussi une volonté d'être dans l'humour. Effectivement, on est dans l'humour tout le temps. On a cette histoire tragique aussi qu'on voit par le petit bout de la lorgnette. Voilà, la tentation du burlesque est là aussi, ce qui fait qu'on a en fait des intermèdes qui sont parlés où on est un peu dans la conférence, et puis des intermèdes qui sont un petit peu dansés, enfin en mouvement plutôt. On passe de l'un à l'autre, donc voilà. Mais je trouve que pour moi ça ne va pas assez loin dans le burlesque, et donc je pense que c'est un spectacle où on ne s'ennuie pas, mais je ne peux pas dire que je me suis absolument amusée non plus. Je n'ai pas tout à fait bien compris, ok, ces histoires, c'est vrai que tout a changé, ces reines, c'était des femmes tout à fait particulières.
Mais c'était déjà des femmes.
Pardon ?
C'était des femmes déjà.
C'était des femmes à une époque où c'était sans doute difficile d'être des femmes. Donc on a toute cette singularité de cette histoire qui effectivement est passionnante. Mais ça reste un petit peu un côté comme si on nous en avait donné la biographie en long, en large, mais voilà, pas, je crois qu'on aurait pu aller plus loin de ce coin, de ce côté-là aussi.
Est-ce qu'il y a une actualisation justement de ces histoires? Parce que c'est ça qui est intéressant.
L'actualisation, elle est un peu dans le deuxième degré, on va dire, mais est-ce que c'est... Oui, parce qu'effectivement, on nous parle d'entrée de jeu d'un pays où on se bagarre au nord comme au sud, donc ça peut faire penser à un autre, mais ça ne va pas beaucoup plus loin non plus, cette actualisation.
Est-ce que pour un premier...
Pardon ?
Est-ce que pour un premier sujet, un premier projet, parce que c'est leur premier projet...
Oui.
Est-ce que ça tient la route malgré tout ?
Ça tient la route. C'est une question difficile. On sent qu'il y a du travail. On sent que voilà, il y a une construction, il y a une structure, il y a beaucoup de petites trouvailles visuelles aussi. Il y a une scénographie tout autour. Mais pour moi, c'est dans les options qui sont prises de passer comme ça du texte à des choses plus dans le visuel. J'ai l'impression par exemple que les vidéos qui par moments sont effectivement drôles parce qu'elles ont été tournées en Angleterre, on suit un petit peu les traces. Et là, il y a notamment un moment où elle demande la route à des Anglais et on comprend rien. Bon, c'est drôle, mais ça ne vient pas spécialement nourrir le propos, c'est un peu à côté. Donc on a toutes sortes de pistes comme ça, de traitements les unes à côté des autres, mais voilà.
De petites touches folkloriques ?
Des petites touches folkloriques, bah, l'Angleterre a un côté kitsch aussi, évidemment, c'est sûr qu'on est à tea time aussi, mais voilà, moi ce qui me va vraiment manquer, c'est pourquoi elle tenait tant à raconter cette histoire. Est-ce que c'est parce que c'est une histoire de femme, est-ce qu'elle s'y retrouve? Je crois qu'on aurait pu aller gratter un petit peu plus loin. Mm-hmm. Enfin, c'est mon sentiment en tout cas.
Alors, en tout cas, c'est It's So Nice pour ceux qui veulent. C'est jusqu'au Marny et c'est jusque samedi, je pense.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et après, ça part en tournée, ça part en tournée hors de Bruxelles.
Merci, Elisabeth. À bientôt, à la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, au revoir. Alors, moi, j'oserais, après Elisabeth, reparler de conférences. C'est les mots sous bonté. Et là, on a vraiment deux conférences, soirée composée avec Skeleton, un précédent spectacle, et leur nouvelle création, Les Buveuses de Café, 25 minutes et 30 minutes. C'est pas une trilogie, c'est pas des spectacles nécessairement liés l'un à l'autre, c'est deux œuvres totalement indépendantes. Et c'est vrai, j'ose dire, c'est sur le procédé de la conférence. Alors, Skeleton, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est une création chorégraphiée par Nicole Mossou et mise en scène par Patrick Bonté. On a un comédien qui amène d'emblée un squelette et qui fait une conférence, mais on ne comprend strictement rien. On a l'impression qu'on a mis les voix à l'envers. Il y a un langage qui nous est inconnu, mais on devine qu'il parle du cartilage et de visqueux. Il glisse cartilago, viscoso. Et par certains mouvements, on finit à comprendre qu'il nous parle du corps et de l'os. Et en fait, dans certains mouvements... Au fil des 25 minutes, on a l'impression que c'est les os qui dansent ou qui essayent de prendre la parole. Il y a des choses curieuses, une main qui essaye de s'appliquer et qui tombe. Il y a tout un univers comme ça sur le corps qui frôle la danse parce que le comédien est un comédien, c'est Bernard Eilenbosch, il n'est pas danseur. Et on vire tout doucement sur un dialogue sur les os et le mouvement qui prend la parole de cette conférence.
Est-ce qu'il y a un traitement du son? Parce que tu parles de compréhension, parfois c'est une question d'audibilité aussi. Enfin voilà, les sons sont travaillés et on sait que Mossou Bonté travaille souvent avec de la musique.
Toujours, c'est Thomas Turin, oui. Et leur musicien depuis quelques créations. Il y a une mise en son comme ça qui... Donc Mossou Bonté, c'est simple, c'est un univers d'étrangeté où on frôle parfois l'inconscient. Il y a des réalités comme ça qui sont décalées. On a l'impression qu'on a pris un trip. Hein. Et donc voilà, donc ici il y a un son, mais c'est surtout le comédien qui porte ce texte parce que c'est un texte mine de rien et qui a... Bon, on le regarde un peu halluciné parce que c'est un dialogue qu'on comprend sans comprendre. C'est ça qui est assez fabuleux. Et de voir ce corps qui fait du bruit, justement, l'os qui déglutine dans ton corps ou qui bouge, c'est transformé en son. Deuxième partie, après entr'acte, c'est les buveuses du café. Et là, pour faire vraiment court, on va dire qu'on est dans une ambiance, dans une couleur d'un film de Lynch, on va dire. Des rideaux qui prennent tout l'espace, des rideaux de velours orange, deux tables côte à côte avec deux femmes ailleurs, et évidemment qui vont prendre le café, hein, les buveuses de café, deux femmes indépendantes. On a l'impression qu'elles s'observent sans vraiment se regarder. Les gestes ont l'air d'être ensemble, mais tout doucement il y a justement le décalage qui commence à venir. Et comme dans un rêve halluciné ou dans un inconscient qui prend le dessus, tout doucement, elles vont se déshabiller, servir le café, prendre des pauses à table, et elles vont se retrouver dans une espèce de deuxième partie sur un divan où il y a une espèce d'échange mi-érotique, mi-conflictuel, allez savoir, et tout doucement après elles vont reprendre. On dirait que dans cette deuxième partie, quelque chose s'est révélé en elles et elles vont reprendre leur position de buveuse de café. C'est vraiment l'univers étrange. Ici, c'est mis en scène, c'est pensé par Patrick Bonté, et c'est mis en scène et chorégraphié par Nicole Mossou. C'est un duo qui travaille depuis des années ensemble et qui fonctionne très très bien. Ils ont un univers plastique, un univers du mouvement, et surtout nous ramener des réalité décalée. Donc ce qu'on pourrait voir si on le voulait, mais que la réalité bien cadrée prend le dessus. Donc c'est vraiment deux espèces de voyages étranges sur le principe de la conférence, qui est quand même, moi je trouve, qu'il est quand même quelque chose de très efficace si on en prend soin et Mossou Bonté réussit cette
petite
chose.
Si c'est bien utilisé, évidemment.
Et voilà, donc Skeleton et les buveuses de café, c'est aussi jusqu'au 29, hein, décidément tout se termine, c'est jusque samedi à la chapelle des Brigitines, 3xw.lesbrigitines.be. Et je vous emmène, j'en profite pour quelques minutes avant la pause, dans un univers tout aussi plastique que Mossou Bonté, mais qui est beaucoup plus allumé. C'est Philippe Kenz qui vient ce week-end au CAI Théâtre pour un spectacle qui s'appelle Big Bang. Alors Philippe Kenz, c'est du théâtre ultra plastique. Le mec est un scénographe à la base et surtout il a étudié les beaux-arts et il nous présente un spectacle qui s'appelle Big Bang. Alors le principe est très simple, il a l'air très cool le mec, c'est pas de prise de tête. C'est des artistes qui sont réunis dans une espèce d'atelier qui doivent réfléchir aux origines de l'homme. Et l'univers est très plastique, donc c'est des jeux. C'est pas un jeu maîtrisé, c'est des gens, tiens, on essaye de chercher, et ils le disent sur scène, et ils essayent plein de trucs. Et ce qu'il y a, c'est le procédé. Il y a plein de trucs plastiques qui déboulent. Il fait rentrer une voiture sur scène, il fait rentrer à un moment donné des astronautes, alors on croise aussi des hommes de Cro-Magnon. Et on pige pas tout, mais on reste quand même halluciné par tous ces gens qui se prennent des tripes. Et alors, le plus spectaculaire dans ce spectacle, c'est tout doucement, au fil du spectacle, sans blague, il y a des canaux pneumatiques, du plus petit au plus grand, et au plus en plus grand. Et là, on se dit, mais ils sont complètement allumés d'avoir... Donc, il faut de l'espace pour leur mise en scène, c'est très visuel. Et ça reste une drôle d'expérience de théâtre. Moi, je les avais vus à Avignon, ça a complètement foiré, parce qu'à Avignon, ils veulent du texte. Donc, si vous êtes branchés théâtre classique, mieux vaut éviter ou tenter l'expérience d'un théâtre trippé. Voilà. Et dans tous les propos de Philippe Kenz, c'est un peu l'homme maladroit dans ce grand monde qui existe et dont, de toute façon, ce sera la scène finale, ce sera la finitude de l'homme. Donc on est dans cet univers un peu sombre, mais très bien pris en couleur et parfois assez drôle. C'est Big Bang de Philippe Kenz, homme de Cro-Magnon et astronaute dans des canaux pneumatiques. C'est vendredi et samedi et les places se vendent comme des petits pains. Sur ce, une petite pause musicale.
Et retour du théâtre juste après ceci.
La constellation.
Retour au théâtre. Alors, on a Catherine au téléphone. Bonjour, bonsoir Catherine.
Bonjour.
Alors Catherine, toi tu es partie voir le retour de Nathalie Mauger, hein, qui présentait hier à la Balsamine Indigène de Franck-Xavier Creutz.
En effet, l'Indigène, sous-titré pièce pour grand théâtre guignol. En fait, c'est une pièce qui a été conçue pour être jouée par des marionnettes, mais Nathalie Mauger a décidé de le faire jouer par des comédiens, en partant du principe que c'était d'abord et avant tout des personnages de chair, que la chair est très présente dans cette pièce, puisque la plupart des personnages sont atteints dans leur chair. Donc il y a Kurt qui a un cancer du larynx, et qui viole à tour de bras sa nièce, qui sera d'ailleurs l'Indigène, qui rencontrera plus tard un autre jeune homme, Tony, atteint du sida, et puis un autre qui est atteint d'un cancer de l'intestin. Donc voilà, tout ça est très glauque, comme d'habitude avec Creutz. Moi, j'aime assez, en général, l'univers de Creutz.
Mais toi, tu aimes tout ce qui est glauque.
Moi, j'aime...
non, les failles, hein, c'est un truc sombre. Ouais.
Et mutilation sociale, c'est comme ça qu'il décrit en général son théâtre. Sauf que là, on est dans un théâtre grand guignol, donc même si ce sont des comédiens qui jouent donc cette histoire d'une jeune femme qui va être violée par son oncle, et puis qui va sans relâche essayer de trouver un père pour cet enfant qui n'a pas de père et qui va tomber évidemment sur des personnages tous plus glauques les uns que les autres, des hommes qui ne veulent absolument pas assumer cet enfant. Donc c'est une critique terrible de l'homme.
De l'âge adulte.
De l'âge adulte, de la faillite du père. Alors elle relie ça au fait que Creutz est né en 1946, donc après la guerre, lui-même fils d'Allemands qui ont fait la guerre avec les nazis, donc voilà. Tout ça est brassé dans cette pièce, grand guignol, mais sans la farce. Alors c'est ça qui est très étrange, on joue à la manière des marionnettes, donc d'une manière totalement désincarnée, mais sans aller jusque la farce. Donc c'est, on ne sort jamais de ce glauque, au contraire on s'enfonce dans une vulgarité sans fond, avec des éléments très étranges. Donc le Christ, la figure du Christ est très présent. Heureusement qu'on n'est pas à Paris et que c'est pas Castellucci, sinon on aurait les intégristes à la porte de la Balsamine. Voilà.
Quelle est l'option de la scénographie ?
Alors la scénographie, c'est très bricolé. C'est assez moche, moi, je trouve. C'est un brick à brac qui change à vue d'œil.
Le jeu des comédiens, c'est ça qui te paraît le plus bizarre ? C'est que...
C'est marionnettisé, finalement.
Oui, c'est ça. C'est surtout désincarné. Et puis, ça, c'est à la fois désincarné et en même temps, on décrit un quotidien très réaliste, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est très dilué, je trouve. Et il aurait fallu, à mon avis, un petit peu d'humour pour désamorcer tout ça. Et parce on que... reste dans la noirceur sans issue de secours.
À mon avis, le biais de la marionnette est évidemment de pouvoir faire le recul par rapport à cette histoire, comme tu l'as décrite, assez glauque. Et ici, même si c'est désincarné, ce sont des personnes devant nous qui incarnent ces personnages avec leurs caractéristiques aussi dramatiques et glauques, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Tout à fait. La marionnette, en général, c'est pour incarner un type. Un archétype souvent. Et là, on oscille un petit peu entre les choses. J'ai trouvé ça assez flou, ce qui fait qu'on trouve ça très long. Moi, j'ai trouvé ça très long. Ça dure 1h40, mais moi, je me suis un petit peu ennuyée.
C'est aussi la première, donc c'est aussi...
En plus, c'est la première, facile. Donc il y avait quelques couacs, assez embarrassants. D'ailleurs, à un moment donné, un des personnages devait dérouler une toile qui s'est coincée. Donc il a fallu aller chercher des ciseaux pour décoincer cette toile.
Ça, c'est pas forcément la première, hein, on va dire. Ça
non, mais bon, la première, de toute façon, un spectacle est toujours très fragile, donc probablement ça se resserrera. Mais l'option du mauvais spectacle n'est pas liée à la longueur. C'est un tout, c'est les options prises apparemment par Nathalie Moget, qui ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vue. Hein, elle avait,
Oui, elle revient avec une pièce qui en tout cas a des thèmes intéressants. Mais voilà, la mise en scène se cherche beaucoup. Alors, mais pour les amateurs d'expérience, de réflexion philosophique sur le père, c'est encore à voir jusque ce samedi à Bruxelles, à la Balsamine.
Voilà, et après ça a une tournée en Wallonie.
À Charleroi.
Catherine, j'en profite justement pour carrément tout autre chose. Voir ton avis sur le TTO. Jean-Luc Fonck, tu es parti voir Fais un vœu.
Voilà, j'ai vu Fais un vœu ce matin à 10h avec un théâtre Molière rempli de gamins.
Ah, c'est bien, tu étais dans l'ambiance.
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Et eux ont adoré, les enfants ont beaucoup aimé parce que c'est très festif. Alors Fais un vœu, c'est le premier spectacle musical de Jean-Luc Fonck qui explique dans le dossier de presse qu'il s'est aperçu que les enfants aimaient beaucoup ses chansons, souvent. Alors voilà, il a écrit et composé cette comédie musicale qui est mise en scène par Nathalie Huffner. Fais un vœu, donc c'est un jeu de mots parce que c'est écrit « fée » comme une fée, comme un conte de fées. Fais un vœu. Alors moi, j'y allais en me disant « chouette, Jean-Luc Fonck, ce qu'il fait de mieux quand même, c'est les calembours. Les jeux de mots, c'est un petit peu sa marque de fabrique, même si je suis pas une fan absolue de ses chansons en général. Mais je me disais qu'avec les enfants, ça peut être chouette de leur donner le goût comme ça de jouer avec la langue. Alors j'attendais avec gourmandise ces jeux de mots et finalement il n'y en a pas beaucoup dans la pièce. Et ceux qu'il y a ne sont pas terribles à mon avis. Et pour le reste, les textes sont très pauvres. Alors l'histoire, en gros, c'est très simple, hein. C'est une petite fille qui s'ennuie dans sa chambre et qui rêve qu'une fée vienne pour changer sa vie. Et justement, arrive une fée, jouée par Odile Mathieu, qui le fait assez bien. C'est une fée hyper décontractée, qui parle en disant « sans déconner », enfin voilà, qui a un parler cru, qui est pas du tout gnangnan, et qui arrive avec 10 vœux à exaucer. Et là, ça tombe par contre un petit peu dans la gnangnanterie. Je vous raconte pas tout, mais voilà, elle a 10 vœux.
Non,
et puis...
non, déjà, ça plombe notre émission, hein, avec Nathalie Mauger, l'indigène, glauque et mal foutue, et les calembours à 2 balles. Autant se passer un CD de Jean-Luc Fonck.
Oui, c'est mieux, sans doute.
Bon, mais pour qui voudrait aller voir, c'est à voir jusqu'au...
C'est à voir jusqu'au 6 novembre, donc toute la semaine prochaine au Théâtre Molière et au TTO. Il y a plusieurs représentations dans la journée, dans l'après-midi, le matin ou en soirée. Et puis après, c'est repris du 26 novembre au 8 janvier.
Non, du 26 décembre, hein, je crois que c'est pour les fêtes.
Oui, c'est à vérifier.
De toute façon, toutes les infos seront sur le site du TTO.be. Catherine, je n'oserais pas te dire merci, mais en tout cas la semaine prochaine. Et je te souhaite de bons spectacles cette semaine.
Merci, à vous aussi.
Au revoir, salut. Retour après de quelques coups de gueule, mauvais spectacle. Ça existe, hein. Faut arrêter de croire que tous les spectacles sont bons comme tous les films sont bons, et il faut le dire de temps en temps. Alors, on va cette fois-ci, l'enfant poussé tordu. Sophie, est-ce que toi tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer de ce spectacle que tu as vu hier à l'atelier 210?
Alors, je trouve que c'est pas très facile de dire qu'un spectacle est bon ou pas bon, parce que ici, mon ressenti, c'est qu'il y a d'excellents ingrédients, des ingrédients de valeur, et malgré tout, il manque quelque chose. Voilà, ça reste un bon spectacle, mais on sort de là en cogitant un peu et avec une impression de quelque chose d'inabouti, ou voilà, on y réfléchit. Donc l'enfant poussé tordu, c'était la première hier, c'est jusqu'à ce samedi à la télé 210. Et c'est une écriture collective du collectif « On voit ta culotte, Madame Véro ». Donc ce sont des jeunes comédiens sortis de l'inceste il y a déjà quelques années. Ils ont déjà quand même trois autres spectacles à leur actif. Et,
le pitch de cet enfant poussé tordu.
Alors en fait, il y a une note d'intention qui annonce une quête de soi, une recherche, l'accès au bonheur. Et à cette fin, il faut affronter ses peurs et les obstacles qui se dressent sur le chemin. Le choix qui est fait pour affronter ses peurs, c'est de partir de l'enfance, de la métaphore de l'enfance, et les peurs de l'enfance et ses cauchemars. Donc on se retrouve réellement dans une métaphore, et cette métaphore cauchemardesque, hein, on est dans l'onirique, mais cauchemardesque, est très bien représentée par la scénographie, par un texte très, très imagé, très surréaliste aussi. Voilà, donc tout à l'heure Catherine parlait de tout ce qui était glauque. Ici aussi, c'est glauque, c'est... voilà, on est dans le cauchemar. Mais malgré tout, cette intention, on ne la retrouve pas finalement. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que voilà, ce sont des enfants, 5 enfants dans une forêt de toutes les peurs, qui est très bien représentée par des branchages, des panneaux, des cordes, l'eau qui coule et plein de choses comme ça, la fumée, la lumière. Des enfants perdus, un peu comme dans Peter Pan ou La Quête d'Alice. Ce sont des adultes, oui, les 5 comédiens qui ont écrit. Et voilà, ces enfants sont seuls, livrés à eux-mêmes. Ils vont instaurer des règles de communauté et ils vont faire leur propre éducation aussi. Mais voilà, on est dans un spectacle totalement fragmenté, et entre des conciliabules où ils vont mettre en scène des concepts tour à tour, l'enfer. Là, on se retrouve dans une scène qui part en opéra rock en allemand, un peu vulgaire. On comprend pas très très bien pourquoi ça vient là, mais bon, voilà. Et des récits ponctuels de rêves ou de cauchemars, plutôt. Et la mise en scène est très intéressante. Ils se retrouvent là, tous les 5, à courir sur place, essayer de fuir quelque chose et à raconter tour à tour des cauchemars dans un texte très très surréaliste et imagé. Voilà, le jeu, j'ai trouvé juste, troublant, notamment celui d'Anne-Catherine Régnier, qui était... Dans la folie et l'égarement.
Qu'est-ce qui t'a manqué ?
Qu'est-ce qui m'a manqué ? Mais je pense que c'est peut-être un fil conducteur et un propos plus clair. Mm-hmm. Voilà. un propos plus clair, une intention, une situation plus juste, plus claire. Voilà. Mais malgré tout, de très bonnes idées et un spectacle original. Et donc, c'est à voir à l'atelier 210 jusqu'à ce samedi 29 octobre.
Manque de liant dans les cauchemars. Donc, bah, c'est normal, hein.
Autre cauchemar qui n'en est pas un, c'est Oedipe à la Monnaie. Alors, Oedipe, vous connaissez tous, il tua son père, il coucha avec sa mère, il lui fait une chier d'enfant, quatre avec Antigone, la plus connue. Et après, quand il a su tout ça, le mec, il s'est crevé les yeux et il a tracé sa route avec Antigone qui l'a suivi. Et il est parti crever du côté d'Athènes. Oh, grande catastrophe, grande tragédie grecque. Je vous la raccourcis de façon un peu grossière, mais voilà, tout le monde connaît Oedipe avec Freud et toute la clique. Ici, c'est un compositeur, Georges Enescu, qui ressort cette composition, hein, cette partition. Georges Enescu est décédé dans les années 50 et apparemment, ça a disparu, ça n'a jamais été monté. Donc, c'était une grosse première et c'est mis en scène. Moi, j'y allais... parce que c'était mis en scène par la Furia del Boos, qui est un collectif assez punky espagnol, qui font des choses très bien. Ils avaient fait le Grand Macabre, qui avait marqué les esprits. Moi, je n'avais pas eu l'occasion, donc je suis partie voir. Et c'est Alex Olé, donc de la Furia del Boos, qui met ça en scène. Et moi, j'étais un peu déçue, parce que je retrouve un peu le côté très spectaculaire des mises en scène au théâtre, très fastueux. On est dans des images très fortes, très chocs, hein. Tout le chœur et tous les gens sont mis dans un bas-relief, comme ça, qui prend toute la scène. Ça, ce sont les premières images, ils sont incrustés dans une espèce de couleur terre où ils doivent chanter de ce bas-relief et après les personnages vont sortir et il y a Oedipe qui tient la route de tout cet opéra avec le chœur qui est là. Moi, il y a un truc, bon, il faudrait voir si c'est dans la partition, c'est qu'il est très chrétien. Ça démarre sur le divin enfant, hein, qu'on lui fait quasi un baptême et ça se termine, Oedipe qui à un moment donné part vers une porte qui s'ouvre dans une grande lumière au loin, donc ça m'a assez surpris. Je vous propose juste d'écouter l'extrait qui m'a le plus plu, et c'est le Sphinx, hein, la rencontre avec le Sphinx, qui est Natasha Przecinski. Nous, on a vu la deuxième distribution, et l'orchestre est dirigé par Léo Hussein, qui était très doux, malgré cette composition qui fait un peu certains disent du Janáček, mais qui est assez ample. Juste deux mots pour terminer cette conspiration de planches. Retour la semaine prochaine, ça se joue jusqu'au 16 novembre à la Monnaie et on achève vite l'émission comme ça. Bonne semaine à tous, bonne planche, à la semaine prochaine.
Et retrouvez toutes les informations sur www.radiocampusbruxelles.org. Belle semaine à vous.